Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Méditation dans la Bible, c'est un sujet qui, je pense, concerne tous. Alors, une première lecture, je vous la propose dans le livre des psaumes, au chapitre 107, enfin le psaume 107, disons les choses comme cela. Le psaume 107, et à partir du verset 23, et nous ferons une seconde lecture dans l'évangile de Marc. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Un second texte que nous allons faire maintenant dans l'évangile de Marc, s'il vous plaît. Évangile de Marc, au chapitre 6. Et verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette simple méditation que nous allons entreprendre sur deux dimanches. On va essayer d'étudier et de méditer ce texte par deux fois. Nous avons là, dans ce que nous est présenté, une grande leçon de la vie chrétienne, c'est-à-dire le repos en Dieu. Le repos en Dieu ou le calme intérieur que procure la foi. Et c'est vrai que ça, c'est une vérité, parce que se dire chrétien, déclarer notre christianisme, et être dans cette agitation, dans ces troubles intérieurs, eh bien, il y a quelque chose qui doit être porté devant Dieu pour que lui apporte véritablement, eh bien, le remède, la solution. Un chrétien est avant tout un homme qui sait se maîtriser, qui a appris à se maîtriser, qui est capable de gérer des situations, capable de répondre correctement, sans agressivité, sans s'énerver, enfin, beaucoup de choses semblables. Comme toute vertu chrétienne, le repos en Dieu s'acquiert par l'expérience de la puissance divine, de notre communion avec Dieu. Ça, c'est une chose qui est acquise, qui doit être normalement, eh bien, acquise. Et ce n'est pas la force morale, je tiens à le souligner, puisqu'il va y avoir Eh bien là, tout un enseignement autour de la question, ce n'est pas la force morale de la maîtrise de soi, avec les raisonnements que l'on peut se donner psychologiques, en disant il faut que je reste calme, il faut que ça peut avoir naturellement eh bien, une incidence sur notre comportement et notre manière d'être et de parler, mais je pense que authentiquement ça vient de Dieu. Vous savez que c'est un fruit de l'esprit, la tempérance et la maîtrise de soi, et ce n'est pas une quelconque force de volonté qui pourrait nous animer, mais c'est une confiance. L'expression, c'est une confiance paisible en Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans notre vie, et qui a fait dire dans le psaume 118, c'est le psalmiste qui déclare ceci, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, l'Éternel est mon secours. » Alors il y a le dire et il y a le vivre. Alors nous allons passer maintenant à l'application pour le vivre. Parce que le dire, on peut toujours citer tous les versets bibliques qui nous concernent ou nous intéressent, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Je crois que ce qui est important, c'est véritablement de s'approprier ces vérités bibliques, évangéliques, ces vérités de l'esprit, le vivre réellement. La notion de repos a toujours été présente dans la Bible. Vous l'avez remarqué probablement par différentes lectures que vous avez faites. À la création, le repos préside. Ensuite, Dieu va instituer ce qu'on appelle le sabbat. C'est l'Ancien Testament. Après, il y aura un sabbat prolongé, c'est-à-dire le jubilé. Et puis Jésus nous parlera de l'année de grâce. Vous vous souvenez dans l'évangile de Luc, de l'année de grâce. Il y a, et j'aimerais le rappeler ce matin simplement, il y a quatre repos distincts, quatre repos divins différents. Le premier repos, je le rappelle, c'est le repos de la conscience. Le repos de la conscience, c'est celui qui trouve le pardon de ses péchés et la délivrance de sa culpabilité en Jésus. Naturellement, dans le sacrifice que Jésus, a réalisé. C'est ce qu'a expérimenté un grand homme de foi, un grand homme de Dieu, que l'on appelle David, le roi David, quand il a écrit le psaume 32. Je vous renvoie à la lecture de ce psaume et vous verrez qu'il exprime bien, même avant l'évangile de la grâce, bien des siècles avant que Jésus ne fasse son apparition, mais lui, il avait compris le sens de ce qu'est le repos de la conscience. Et naturellement, cela a un rapport avec le salut. Et quand nous sommes dans ce repos, finalement, de la conscience, il y a toutes sortes de choses qui se passent, et notamment la crainte de la mort disparaît. Oui, parce que nous sommes dans une bonne conscience en Dieu. C'est vrai que nous restons des hommes vulnérables au mal et au péché, mais une chose qui est certaine, c'est que notre foi nous donne d'accéder et de nous approprier le pardon et la délivrance de la culpabilité, donc, en Jésus. Le deuxième repos, conséquence naturellement, c'est le repos de la grâce, ou le repos dans la grâce de Dieu. L'homme qui découvre que plaire à Dieu ne consiste pas uniquement en l'observance stricte et aveugle des commandements de Dieu. Oui. C'est quelque chose qui doit être acquis pour les chrétiens de l'Évangile. Je le rappelle, c'est l'homme qui découvre que plaire à Dieu ne consiste pas uniquement en l'observance stricte et aveugle des commandements, c'est-à-dire le devoir. Nous ne sommes pas chrétiens par devoir, nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a aimés et qu'en retour nous l'aimons. Et ça change tout, hein. D'ailleurs, le fonctionnement est complètement et totalement différent. Et ce devoir, nous savons ce qu'il en est, c'était ce qui marquait particulièrement l'Ancien Testament, mais cet homme se place sur le terrain de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Ça n'empêche pas qu'il va observer la parole de Dieu. Mais son état d'esprit sera tout à fait différent. L'approche sera complètement différente, pour lui-même et pour les autres. D'ailleurs, c'est cette grande redécouverte que Luther avait faite en son temps, quand il dit « Mais c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas en raison de ce que vous pouvez faire de vos mérites et de toutes sortes de choses, mais c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, tout simplement. Ça, c'était la grande révélation de la réforme. Et je pense que c'est ce qu'on appelle le repos de la grâce. C'est-à-dire, c'est le grand message qui nous est donné, supérieur à l'Ancien Testament, ou accomplissant l'Ancien Testament de la loi, mais d'une vie qui se fonde, comme je l'ai dit il y a quelques instants, eh bien, sur tout simplement la miséricorde et l'amour de Dieu. Où est-ce que nous en serions aujourd'hui si Dieu ne nous avait pas fait grâce? Il faut le croire, il faut l'accepter. Le troisième repos qui nous est proposé, c'est le repos de la gloire. Je vous ai parlé de repos de la conscience, repos de la grâce, repos de la gloire à venir. Je dis bien et je précise, dans les temps à venir. Quand nous aurons traversé fidèlement, jour après jour, cette vie d'homme que Paul appellera le corps de l'humiliation, lorsque nous aurons supporté les douleurs de cette existence, alors s'ouvrira ce que l'on peut appeler le repos de l'éternité, le repos céleste, le parfait repos, comme nous le chantons dans un cantique. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que au chapitre 14 et au verset 13, ce texte tout simplement qui est une formidable espérance pour nous, pour les chrétiens. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le repos, tout simplement, de la gloire. Et ça, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui nous l'a promis, et nous le savons et nous le croyons. Le quatrième repos, c'est celui que nous allons étudier ce matin. C'est ce que je rappelle, le repos de la foi. L'existence, vous le savez aussi bien que moi, est faite de fatigue, d'efforts incessants, de labeur, de tourments, d'agitation, de toutes sortes de choses. Ça, c'est la vie. Et n'allons pas nous imaginer que ça peut être autrement. Même, tout simplement, eh bien, dans notre engagement chrétien, parce que c'est aussi ça. C'est le lot de la terre sur l'homme, depuis naturellement l'effondrement, la chute. Mais Dieu a prévu pour ses enfants un repos bienfaisant pour le cœur et l'esprit, une paix profonde qui inonde l'âme au sein des plus violentes tempêtes. C'est pour ça que nous avons lu le psaume précédent, le psaume 107, où il nous est parlé des hommes qui montent sur des navires, et là qui vont se trouver sur un océan d'agitation, toutes sortes de choses. Et nous voyons que ça, c'est une paix qui vient de Dieu. Paix parfaite. Nous avons une multitude d'exemples d'hommes de Dieu, d'hommes de foi dans l'Écriture, ou qui nous laissent finalement un modèle de comportement, de support des difficultés, des afflictions, des tribulations, et qui nous montrent comment résister, comment survivre dans un monde d'hostilité. C'est la réalité, on le sait. C'est ce qu'on appelle le repos de la foi. Il y a cette exhortation dans le livre des Hébreux au chapitre 4 quand il nous est dit ceci. Il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Il est là, il est à disposition. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Même s'il y a beaucoup de choses à faire. Même si déjà dans la vie, pour les choses indifférentes de l'existence, et qui plus est dans le service de l'œuvre de Dieu, où les choses ne manquent pas, alors à ce moment-là, nous nous reposons, si nous rentrons dans ce repos de Dieu, nous nous reposons de ses œuvres. Alors, l'exhortation qui nous est adressée, elle est toute simple, vous la connaissez, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et ce que nous allons faire ce matin, en tous les cas, ce que je vais tenter de vous apporter dans la pensée du Saint-Esprit, c'est que vous puissiez rentrer dans ce repos. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de repos, c'est les vacances. Mais peut-être que tout le monde n'est pas en repos. Peut-être que vous êtes super stressé, super agité, et que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Ce matin, figurez-vous, au dernier moment, j'avais préparé un autre message. C'est curieux, hein, mais je vous le dis, hein, je vous le confie. Hein. Cette semaine, malgré les agitations et les bouleversements de ma maison, toujours est-il que j'avais préparé un message, ça me trottait dans la tête. Et ce matin, au dernier moment, juste avant de partir, le Seigneur me dit, tu changes comme on dit, ton fusil d'épaule. Je ne suis pas armé, hein, je tiens à vous le dire, je vous rassure. Et tu apportes ce message. Alors je ne sais pas pourquoi je le dis, mais peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre, ou quelques-uns ont besoin de l'entendre. Alors voilà, moi quand le Seigneur me montre quelque chose, j'essaie de le faire. Hein. J'essaie de... Quelquefois c'est pas toujours facile, hein, mais je dis parce que ça doit correspondre à... Voilà. Mais moi, c'est pas moi de me poser la question. La seule chose que Dieu me demande, c'est d'obéir. C'est tout. Et puis de faire. Voilà. Alors, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et vous avez remarqué, il y a l'association de ces deux mots qui me semblent contraires, antinomiques. Efforcez-vous et repos. Effort et repos. C'est curieux, hein? Alors, on va découvrir ça. Celui qui rentre dans la dimension du repos de la foi est semblable aux vagues, écoutez bien, qui rident la surface de l'océan, dont l'intérieur de l'océan, l'intérieur de la mer, en profondeur, règne un calme inaltérable. Le repos de la foi, ça pourrait être cette image, c'est-à-dire qu'en surface, ça bouge, il peut y avoir quelques vagues, mais à l'intérieur, au plus profond, ça ne bouge pas. Mis à part les grands courants marins, mais ils suivent toujours le même chemin. Et ça, c'est l'image peut-être que nous avons besoin de, dans laquelle nous avons besoin de nous imprégner. C'est qu'en surface, dans notre vie, ça peut bouger. Mais si notre cœur, en profondeur, connaît la paix de Dieu, le repos de la conscience, le repos de l'esprit, le repos dans nos pensées, le repos de la foi, le repos de l'éternité, de cette perspective de l'éternité, alors à ce moment-là, ça change tout. Notre cœur, notre âme, notre esprit sont en paix et le repos est permanent. Je crois que c'est toujours quelque chose de formidable de voir des enfants de Dieu qui sont et qui apportent avec eux le repos. Il y en a d'autres qui sont toujours agités, toujours en train de bouger, toujours en train de remuer, toujours en train de... Je ne sais pas, ils ne peuvent pas tenir en place. De droite et de gauche. Mais quand on a affaire, vous allez me dire, ça ne vient pas tout de suite, hein. Mais quand on a affaire à des gens qui, après des années de conversion, sont des gens sur lesquels on peut compter, des gens qui n'auront pas une parole plus haute que l'autre, des gens qui sont capables, eh bien, d'apporter toute leur attention, sans être, eh bien, là, animés par toujours ce réflexe de défense, toujours vouloir se défendre, même quand il n'y a pas à se défendre. C'est parce que, évidemment, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est qu'il y avait peu probablement des vagues et une tempête. Enfin, sinon une tempête, une agitation ou un manque de stabilité. Et ça, permettez-moi de le dire, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que l'on acquiert dans la communion avec le Seigneur. Je prêchais mardi dernier à Redon, et je parlais de Moïse dans le livre des Nombres, qui était attaqué par Myriam et Aaron, vous connaissez l'histoire, hein, la mauvaise langue. Et il nous est dit qu'ils se sont mis à se... Enfin, ils se sont ligués contre leurs frères pour, eh bien, pour une raison qui était une raison d'apparence, hein, puisqu'ils s'étaient mariés avec une femme éthiopienne. Mais en quoi ça les regardait? C'était son choix. Alors ils se sont mis à déclencher toute une cabale dans le camp, vous en êtes compte, en famille, hein. C'était pas très 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 beau. Et nous voyons que le fond du problème, c'est qu'ils étaient jaloux de la spiritualité ou des dons que Dieu avait donnés à Moïse. Vous relirez cela, hein, vous pourrez voir ça chez vous. Et à un moment donné, Dieu va donner cette petite phrase, ce petit verset tout de suite. Il dira, mais Moïse était l'homme le plus doux de toute la terre. Le plus patient de toute la terre. Mais il n'a pas toujours été. Parce que quand on connaît les débuts de Moïse, il a quand même été meurtrier, il a tué un homme. C'est pas par patience qu'il l'a supporté, hein. Après, il a été faire un tour 40 ans dans le désert pour aller respirer le grand air. Là, il a appris le repos en Dieu, la paix de Dieu. Et puis après, 40 ans ensuite, parce que vous savez qu'il a vécu 120 ans, hein. Déficit pour la sécurité sociale, je vais vous dire, c'est une véritable catastrophe, hein. Non, non, mais si vous faites le compte, ça ne m'étonne pas qu'on n'y arrive pas, hein. Enfin, moi, ça ne me regarde pas, mais en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que après les dernières 40 années de sa vie, je peux vous dire qu'il en a vu de toutes les couleurs. Hein. Il était tranquille pendant 40 ans dans le désert, somme toute, mais après, il a dû mener un peuple à errer dans un désert qui était continuellement en train de maugréer, continuellement en train de ronchonner, toujours en train de s'en prendre à Moïse, aux uns et aux autres. Et là, il a pris la patience. Et pourtant, il nous a dit, Moïse était l'homme le plus patient et le plus doux de toute la terre. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris le repos au fond de son cœur. Mais ça, c'est le Seigneur qui le lui a appris. Avec le psalmiste, au psaume 116, nous pouvons dire ceci. « J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. » Retourne à ton repos. Retourne. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce verbe. Retourne. Et je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un ou quelques-uns pour vous dire ou pour te dire, retourne. Retourne, toi qui as perdu ta paix. Toi qui as perdu ton calme intérieur. Alors, reviens. Retourne, c'est revenir. C'est prendre conscience et de dire qu'on n'est plus peut-être en phase et qu'on se rend soi-même malheureux. Et naturellement, quand on est malheureux, on rend les autres malheureux. Alors, il faut qu'il y ait un retour, et c'est un appel, reviens. Toi qui ne connais pas encore la sérénité du cœur, ou de la conscience, la paix ou le repos du cœur, eh bien reçois ce matin. Pour ceux qui ont connu et qui ont perdu, reviens. Pour ceux qui ne connaissent pas, reçois. Le Seigneur est là pour te le donner. Si tu ouvres ton cœur et si tu lui fais tout simplement confiance. Et cela, c'est en écho à cette formidable parole que nous avons au cœur même de l'évangile prononcé par Jésus quand il dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui êtes agités, troublés et ballottés, alors venez à Jésus. » Ce n'est pas de venir dans une église, ce n'est pas d'appartenir à une dénomination religieuse, c'est de venir à Jésus et de lui apporter votre problème et de pouvoir le réaliser d'une manière concrète. Et sans faux fuyant de dire « Oui, c'est vrai que je suis fatigué, je suis lassé, je suis assez agressif, j'ai besoin de ceci et cela. » Alors le Seigneur peut nous le donner. Hein. Et d'ailleurs, ça fait partie du programme. Permettez-moi de le dire. Parce que si nous ambitionnons à être missionnaires ou évangélistes, à faire de grandes choses, à gagner des âmes, ça passera par là. Hein. Le Seigneur veut nous construire à l'intérieur afin que nous puissions aider les autres à se construire. Si on n'est pas construit soi-même, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que nous connaissons réellement le repos de la conscience ? Est-ce que nous connaissons cette joie et cette espérance que l'on appelle le repos dans l'éternité à venir ? Cette foi que nous allons partager le ciel avec Jésus, puisqu'il y a plusieurs demeures. Est-ce que nous connaissons le repos de la grâce ? Est-ce que nous possédons le repos de la foi ? La question, elle est pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que nous connaissons le repos de la foi ? Paix en tout temps et en toutes circonstances ? Regardez Paul et Silas dans la prison à Philippe. Ils ont été battus, ils ont été maltraités, ils ont été humiliés. Et vous savez ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là ? Il était minuit, quelle heure, hein ? Tardive. Eh bien, ils chantaient des cantiques à la gloire du Seigneur. C'est un bien, ce repos de la foi, c'est un bien précieux et ô combien délicieux pour soi-même et également pour les autres. Je prends un exemple rapide. Je vous parlerai de Jean. L'apôtre, qui n'a pas toujours été très calme, puisque vous connaissez son nom en grec, avec son frère, Boanerges, fils du tonnerre. Avec ça, vous savez, vous pouvez aller loin. Hein. Jean, l'évangéliste. Il est aussi nommé le bien-aimé. Et il est nommé le bien-aimé parce que peut-être qu'il avait des qualités qui faisaient que des choses dans lui-même, est bien appelé à cela. C'était un homme de repos. Je vais vous donner une preuve. Dans l'évangile de Jean, celui qui l'a écrit, mais dont il, par modestie, cache son nom, son écriture, il dit ceci, « Un des disciples, en parlant de lui-même, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein, sur la poitrine de Jésus. » Qu'est-ce que c'est, couché ? Et sur la poitrine de celui qu'il aime, son sauveur, celui qu'il a reconnu comme le Messie. C'est une attitude de repos, d'affection, de tendresse, d'amour. Pour me dire, et pour vous dire, qu'on trouve le vrai repos lorsqu'on l'on fait le choix d'être le plus près possible de Jésus. J'ai remarqué dans l'expérience pastorale que plus les chrétiens s'éloignent du Seigneur, plus ils sont agités. Vous avez remarqué peut-être ce mot que j'aime pas, hein, pas du tout, hein, mais les rétrogrades. Ils ont perdu un petit peu le centre de gravité. Parce que être chrétien, c'est être christocentrique, je veux dire sur Christ, en Christ. Mais comme il y a une évaporation un peu tout autour, automatiquement il y a une perte en ce sens. C'est être le plus près possible de Jésus. Jean se reposait sur Jésus. C'était physique, mais nous avons aussi une autre conception de pouvoir nous reposer sur Jésus et d'être près de son cœur, dans sa vie. Et je dirais même, lui, sa vie en nous, puisque vous connaissez les textes. Alors, pas étonnant, naturellement, que Jean ait pu affronter certaines tempêtes. Et la plus terrible de toutes, me semble-t-il, pour Jean, enfin, parmi quelques-unes, il était le seul à la croix à être auprès de Jésus. Ça, c'en était une tempête. C'est la foi. Ça pouvait être le Trafalgar de sa foi. Et puis, en prison à Jérusalem, là aussi, dans le livre des Actes, et la captivité de Patmos, qu'est-ce que nous en faisons ? Ça faisait partie aussi certainement de son tempérament, de son caractère, mais je pense qu'il a vécu et il vivait les choses dans la foi en Jésus-Christ, dans le repos de la foi. Il connaissait le repos en Jésus. Encore une fois, je pose la question, est-ce que vous savez exactement ce qu'il en est du repos en Jésus-Christ ? Le repos de l'esprit. Jean, l'homme paisible, a dû apprendre la signification du repos de la foi. Et pour apprendre le repos de la foi, il faut faire des expériences. Et l'expérience, ce n'est pas vous de les choisir, ce sera le Seigneur qui les choisira pour vous. Il vous fera passer par telle ou telle situation, et c'est là où vous apprendrez à vous maîtriser. Là où vous apprendrez à compter sur lui. Là où vous apprendrez à traverser des déserts, à marcher sur l'eau. Mais ça se passe comme ça, l'école de Dieu. Ce n'est pas livresque, ce n'est pas parce que vous l'avez lu dans la Bible, hein, mais c'est parce que vous l'aurez vécu après l'avoir lu. Et on dira, voilà, cet homme, celui-ci, celui-là. Comment pouvons-nous diriger ou prétendre diriger quelque chose si on n'est pas en paix soi-même ? Si on n'est pas en paix soi-même ? Jean, on le retrouve dans cette fameuse barque. C'est une nuit d'angoisse mémorable. Mais c'est aussi son histoire, mais c'est aussi celle des autres disciples. Et dans Marc, nous avons lu tout à l'heure, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. » L'apprentissage du repos passe par une perte de contrôle de nos circonstances. Vous avez lu avec moi, il les obligea. Ce n'est pas eux qui ont choisi, c'est Jésus qui a choisi. Ah, on aime bien tout maîtriser. Ça dépend des tempéraments, des caractères. Quand on est perfectionniste ou idéaliste, c'est dur. Parce qu'on aime bien que tout soit au carré, tout soit net et tout ça. Ah oui. Mais ne sois pas juste à l'excès de peur que tu ne te détruises. Ça, il faut le dire aussi. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ça nous autorise à mettre le bazar partout. Il faut rester équilibré, en tout. C'est ça l'évangile, c'est l'équilibre, tout simplement. Alors, ce repos passe, l'acquisition passe par une perte de contrôle de nos circonstances. Il a donc obligé ses disciples. Et dès lors, ce n'est plus eux qui vont décider, mais c'est Dieu. Et ils vont vivre des événements qui vont leur échapper. Et croyez-vous que dans la vie spirituelle, dans notre vie au quotidien, il y a des circonstances qui nous échappent ? Alors on les appellera incidents ou accidents, mais en tous les cas, Seigneur est au-dessus. On appartient, oui ou non, au Seigneur. On lui a donné la domination ou tout simplement allégeance sur notre vie, oui ou non. Alors nous n'avons pas à craindre. Même s'il nous conduit dans des chemins qui ne sont pas forcément ceux que nous aurions choisis. Imaginez-vous les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Ils pensaient monter en Canaan en suivant cette petite langue de terre qui arrivait par la Phénicie. Eh bien, Dieu les a fait les a fait promener pendant 2 ans dans le désert, et comme ils n'en avaient pas assez de désert, ils ont fait 38 ans de plus. À cause de leur incrédulité et de leur courroide, de leur volonté à ne pas vouloir finalement faire confiance à Dieu. Et justement, cette perte de contrôle de nos événements, c'est précisément le contraire de la raison humaine qui veut que tout va bien, que l'on soit sûr de soi, que l'on maîtrise notre vie. Et ça, c'est un autre repos, c'est le repos non pas de la foi, c'est le repos du moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas le repos de la foi, c'est le repos du moi. J'ai tout mis en ordre, c'est classé, c'est réglé, et rien ne bougera. Attendez les événements, attendez le prochain tsunami ou tremblement de terre. C'est le repos de la chair. Et il y a quelquefois une contradiction ou une contrefaçon de ce que l'on appelle le repos de la foi, mais qui n'est que charnel, mais qui ne vient pas de l'esprit, qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit en nous dont nous lui avons donné l'autorité et l'autorisation d'agir dans notre vie, mais c'est une habileté, une expérience de la vie où nous faisons que ben, finalement on arrive à gérer les choses. Mais il arrivera un moment ou un autre dans chaque existence où le contrôle, c'est Dieu qui le reprendra. On peut être très acrobate, on peut faire de l'équilibre un certain temps. Et je dis bien, ce n'est pas le repos de la foi, c'est le repos du moi. Le repos de la chair, c'est un repos charnel. Mais gare aux tempêtes, parce qu'elles arriveront. L'aventure que les disciples vont connaître, ils vont la vivre sur l'eau. C'est important de le dire. Parce que quand on fait des expériences sur la terre, on a quand même les pieds sur terre. C'est solide, hein ? Enfin, j'espère, en tous les cas. Il y a des choses qui sont palpables, je sais à peu près où je me... Hein, c'est notre élément, naturellement. Ils vont la faire sur l'eau. Parce que pour l'homme, l'eau, c'est un élément étranger à la nature humaine. Il n'y a pas de solidité. Ah oui, on n'est pas comme les poissons. Parce qu'il n'y a pas d'appui sur l'eau. Enfin, au milieu de... Rien pour se récupérer, c'est le vide. Et puis, le phénomène de pesanteur fait que si nous sommes sur l'eau, eh ben, nous allons nous enfoncer. Enfin, on peut toujours nager, ça c'est certain. Mais bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Les grands enseignements divins s'apprennent soit au désert, dans la solitude et le dépouillement, soit sur eau. Regardez dans l'histoire de la Bible, la mer Rouge, qu'est-ce que c'était ? Et pourtant, Dieu les a fait marcher à pied sec. Mais s'il n'y avait pas eu le Seigneur, vous connaissez la suite. Jonas, est-ce que ce n'est pas sur l'eau qu'il a appris la grande leçon d'obéissance ? Pierre, marchant sur les eaux. On sait que les autres disciples sont restés dans la barque. Mais lui, faut lui rendre hommage à Pierre, hein, parce qu'il faut le faire. Hein. Il y a la tempête, il y a le vent, il y a toutes sortes de choses, il y a les vagues. Et il dit, Seigneur, eh bien si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur lui dit, bah viens. Ça paraît de la folie, une chose pareille. Et ça va marcher. Vous savez comment on appelle ça ? C'est l'école divine de la confiance. Ouais, l'école divine de la confiance. Parce que si je regarde autour de moi, c'est terrible. Et Pierre, malheureusement, l'a fait un moment, mais il ne l'a pas fait jusqu'au bout. Et on sait ce qui s'est passé. Je reviens à ce terme, il obligea ses disciples. Pour soustraire les disciples, ses disciples de l'euphorie de la multiplication des pains, parce que quand vous regardez dans votre Bible, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est pas seulement un miracle, c'est un prodige. 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé des pains et des poissons. Et il y a eu une euphorie. Il y a eu quelque chose de très fort. C'était l'exaltation, finalement, de tout le monde, de la foule, qui voulait à ce moment-là, c'est ce que l'évangile de Jean nous dit, il voulait que Jésus, il voulait le faire roi. Il voulait que véritablement il soit le roi d'Israël. Ce que Jésus a refusé puisqu'il s'est soustrait à la sollicitation, à la foule qui le pressait. Le repos de Dieu n'est pas, et je tiens à le dire, contre les vents qui soufflent un peu de tous les côtés, même dans nos milieux évangéliques, le repos de la foi n'est pas dans l'exaltation ni même dans l'effervescence. On est d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord. Non, mais je sais que vous êtes d'accord. Parce qu'il y a une exaltation Il y a une effervescence, il y a un enthousiasme qui n'a plus rien à voir avec le saint enthousiasme du Saint-Esprit en nous. C'est tout simplement des... Enfin bon, je ne sais pas de détails. Et cela n'est pas un facteur de repos. On voit les anges agités qui marchent au plafond, qui marchent sur les murs. Il y en a d'autres qui marchent sur l'eau. Mais c'est le résultat d'une agitation intérieure. Alors bien sûr, à grand coup de renfort de paroles, de versets, ils diront que le Saint-Esprit, ceci et cela, etc., etc. Mais le Saint-Esprit ne nous apporte pas à courir dans tous les sens. Il nous apporte notre communion de fruits à l'intérieur. En tous les cas, c'est la patience. C'est la tempérance. Donc la maîtrise de soi. C'est la bonté, c'est la douceur. C'est pas l'agitation, c'est pas l'enthousiasme. Enthousiasme du grec. Dieu en soi. Parce que l'enthousiasme peut être, quand il est dénaturé, il peut être excessif. Il peut être violent, il peut être dangereux. C'est ce qui se passe dans le monde des sectes, où on fait n'importe quoi. La foi est avant tout le repos et non l'excitation, je le rappelle. Sur cette barque, les disciples vont passer de l'exubérance la plus folle, après avoir vu la multiplication des pains, à la peur panique, imaginez-vous, la descente. Hein. C'est le révélateur émotionnel de notre nature humaine et la fragilité de notre foi quand on passe de la cave et au grenier, ou vice-versa. Quelquefois, vous avez des gens qui sont très enthousiastes, mais qui, quelque part, nous laissent une impression qu'ils sont très, très spirituels, ils sont prêts à faire feu de tout bois, comme l'on dit. Et puis vous les retrouvez deux jours après, ils sont en pleine déprime. Eh bien ça, c'est un manque de stabilité. En tous les cas, c'est forcément un manque de maturité. Et nous sommes appelés à devenir matures. Jésus dira, mais pourquoi avez-vous peur? Alors il m'aurait posé la question à moi, j'aurais dit, ben, peut-être la même chose, hein, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Cette expérience de la multiplication des pains aurait pu finalement leur dire, mais Jésus qui est capable de nourrir une foule immense est capable de nous sortir de la tempête, forcément. Mais plus angoissante encore, comme pour les disciples, et quand Dieu, c'est quand Dieu nous embarque, malgré nous, puisqu'il les oblige à, vous comprenez, et nous demande de passer avant lui. Alors on a le sentiment finalement d'être tout seul. C'est ce qui s'est passé. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui. Il y en a plus d'un si nous posions la même question ce matin, en disant, voilà, eh bien, Seigneur te demande de faire ceci et cela, mais tu passes devant, il n'a pas dit qu'il les suivrait. Il les obligea à passer devant lui. Il y aurait plus d'un qui dirait, ben non, non, moi, Seigneur, j'y vais, mais qu'avec toi. Remarquez, il y en a d'autres qui disent, Seigneur, je veux y aller tout seul, c'est pas le bon de m'accompagner. C'est peut-être plus souvent comme ça, hein, quelque part. Quand nous avons le sentiment que Jésus s'éloigne de nous, mais je dis bien le sentiment ou l'impression, que Dieu nous abandonne, mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous ne le voyons plus, nous ne l'avons plus auprès de nous, mais lui a fait des promesses sur lesquelles je dois reposer ma confiance. Ce genre d'épreuve a pour mérite de nous apprendre combien nous avons besoin de lui, que je ne peux pas me passer de lui, et à réfréner notre témérité si nous sommes des téméraires, à faire n'importe quoi et à passer à travers les portes fermées. Oui, il y a des tempéraments comme ça, à haut risque, ou de tout risque, et où on fonce. Et quelquefois, ça calme aussi notre arrogance. Embarquement immédiat, hein, c'était ça. En quelque sorte, si vous connaissez le film chrétien, embarquement. Qu'est-ce qu'une traversée du lac? Pour des marins expérimentés, c'était un tout petit lac. C'était pas grand-chose, le lac de Tibériade. Rien à voir avec la mer, rien à voir avec l'océan, rien à voir avec les grands lacs qui existent partout ailleurs sur la Terre. Oui, mais c'est quand même un lac. Et dans un lac, il y a de l'eau. Et même si c'était un petit lac, on peut se noyer quand même. Pourtant, C'est sur le terrain de ce que nous croyons le mieux connaître que Dieu nous donne les plus grandes leçons et nous révèle que nous sommes rien et que nous ne pouvons rien sans lui. C'était des marins expérimentés les uns et les autres. Ils avaient l'habitude des coups de tabac, ils ont dû en voir. Des souffles, des tourbillons, des tornades, des siphons, des ouragans, des tsunamis, ils avaient dû certainement en connaître. Mais là, ce jour-là, c'était autre chose. Et je le rappelle, c'est souvent sur ce que nous croyons connaître que Dieu va nous prendre au mot. Il va nous dire, mais maintenant tu crois connaître ceci, mais moi je vais te dire que tu connais rien. Sans moi, tu ne connais rien. Et si tu l'as connu de cette manière, eh bien tu vas le connaître d'une autre manière. Parce que la vie de l'esprit n'a rien à voir avec les conceptions et les acquis de la vie naturelle. Leur expérience, ils l'avaient. Et Pierre, qui savait certainement manier la voile et tenir le gouvernail, là ne tenait plus rien du tout. Écoutez, comment Moïse a appris? À un Moïse promis au trône d'Égypte, Dieu va lui apprendre la conduite d'un peuple en lui donnant le peuple d'Israël à diriger. Et là, il va en voir de toutes les couleurs. C'est comme ça qu'il a appris. Un Saul, le pharisien, dixit Paul, eh bien Dieu va lui donner la vraie connaissance. Oui. Parce qu'il croyait connaître. D'ailleurs, il le dira, mais qui es-tu, Seigneur? Vous rendez compte? Un homme comme Saul de Tarse, pharisien, zélé, zélateur et tout ce que vous voudrez, élevé au pied de Gamaliel, un docteur de la loi, il a cru connaître, mais il ne connaissait rien. C'est dans sa révélation que là, il a dit maintenant, moi, j'abdique dans cette situation. Un Simon-Pierre, eh bien, lui, le marin, il va apprendre à marcher sur les eaux, à sortir de là-bas, chose qu'il n'avait jamais faite. Parce qu'il va falloir qu'il apprenne à pêcher, finalement, du poisson. Enfin, il le savait, ça pêchait du poisson, mais maintenant, il fallait qu'il apprenne à pêcher des hommes. Et c'est une autre affaire, pêcher des hommes. C'est de l'évangélisation. Et tous les trois, ceux que j'ai cités, Moïse, ce soit Paul ou que ce soit Pierre, vont faire la même expérience. Ils vont tomber sur leurs genoux en pleurant. Eh oui, parce que les choses que nous apprenons, quelquefois on les apprend en prenant. On touche la poussière. C'était Sinaï pour l'un, c'était Damas pour l'autre, et l'autre, pour Pierre, c'était dans la barque. Quand Jésus ne nous fait plus sentir sa présence, allons-nous perdre notre repos? Toute la question est là. Est-ce que nous voulons marcher avec des sensations, des vibrations, des fluides, des impressions, j'ai dû le dire? Ou est-ce que véritablement nous voulons réellement faire confiance à Dieu? Dans les silences de Dieu, dans les absences de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons réagir en raison de ce que nous croyons? Ou est-ce que en raison de ce que nous voyons? Il s'en alla sur la montagne, trois petits points pour prier. Jésus s'élève, il monte sur la montagne, l'abandon de ses disciples n'est qu'apparent. Et quand Dieu nous semble loin, ce n'est qu'une apparence. Oui ou non, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, est-ce que le Seigneur est avec nous et est-ce qu'il est encore davantage en nous? Alors s'il est en nous, il ne nous quitte pas. Ce n'est pas lui qui nous quitte, c'est nous qui le quittons par incrédulité et à cause de nos doutes et de tout ce qui passe à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus se tient sur la montagne, imaginez-vous la scène, qui domine le lac, pour mieux les voir, ouais, pour mieux les observer, pour mieux les sonder dans la tempête, pour mieux les secourir au moment voulu. Jésus est là et il ne fait pas n'importe quoi, il prie pour eux. Vous connaissez ce que nous dit Paul dans Romains chapitre 8, Christ intercède pour nous. Là aussi, on le croit ou on ne le croit pas. Dans les moments d'épreuve. Mais eux, ils ne le savent pas. Comme nous, quelquefois, non seulement nous le savons, mais nous l'oublions. Nous sommes dépassés par les événements. Si Dieu est déjà là, avant la tourmente qui va fondre sur les disciples, à combien plus forte raison sera-t-il près d'eux, au cœur de l'ouragan? Et c'est pourquoi Jésus prie. Il y a une forme de maturité dont l'Église a besoin, dans laquelle elle a besoin de rentrer. c'est de pas vivre qu'avec des sensations, des ressentis, le frémissement de l'esprit et tout ça. Un homme mature, un chrétien mature, est capable de vivre dans toutes les circonstances, quel que soit ce qu'il peut ressentir. Alors qu'il y ait un accompagnement de cantique, qu'il y ait l'action, l'onction, et ceci et cela. Mais le Seigneur est là, même s'il n'y a pas ça. Ça, c'est de la maturité. Tu ne marches plus par la vue, tu marches par la foi. On a de la chance, hein, d'être dans un pays de paix, un pays démocratique, un pays où on respecte la conscience. Parce que je peux vous dire que les cantiques, les cultes, les réunions, on n'en aurait peut-être pas beaucoup, hein, et c'est arrivé pendant des siècles et des siècles à ceux qui nous ont précédés. Et c'est grâce à eux, hein, qu'on a cet acquis aujourd'hui. Mais dans mon cœur, dans ma chambre, dans ma maison, dans ma voiture, même en conduisant, je ne ferme pas les yeux, hein, je tiens à vous le dire, et en priant, eh bien je peux avoir cette intimité, cette communion avec le Seigneur. Si je dois me fixer des rendez-vous, si je dois me fixer des lieux ou des moments, sanctuaires ou autres, pour avoir cette communion, si je dois attendre le mercredi soir pour avoir la réunion de prière pour prier un peu, si je dois avoir le jeûne et prière pour ceci et cela, mais ma communion elle est en permanence avec le Seigneur. Je ne viens pas pour recevoir lorsque je viens dans une réunion, je viens pour donner de ce que j'ai acquis et de pouvoir le partager avec les autres. Ça, c'est une réflexion tout à fait différente peut-être des acquis, de ce qu'on a peut-être pensé jusqu'alors. Savoir que Jésus veille, savoir qu'il intercède devrait suffire à conserver nos cœurs en repos et dans le calme. Dans les heures de tentation, Jésus intercède. Dans Jean chapitre 17, il y a cette belle parole. « C'est pour eux que je te prie, dira Jésus dans la prière sacerdotale, c'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour eux que tu m'as, pour ceux que tu m'as donnés. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Un autre exemple, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, dira-t-il à Pierre, afin que ta foi ne défaille point. » Jamais Dieu ne perd de vue ses enfants. Et ça, c'est une promesse rassurante. C'est rassurant, c'est tranquillisant, c'est apaisant. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 43, il nous dit ceci. Écoute bien, écoutez bien, je ne veux pas vous tutoyer. Ne crains rien. Parce que le Seigneur, lui, il peut nous tutoyer. Nous, d'ailleurs, on le tutoie, lui aussi. Ne crains rien, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Mes frères et sœurs, est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que vous voulez le vivre maintenant? Je vais vous emmener tous au port et puis on va tous marcher sur l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'ai entendu un oui par là. Je vous donne rendez-vous aux urgences. Non, mais on ne le ferait pas, parce que là, ça, la témérité, c'est tenter Dieu. Hein. Et il est dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Hein. Attention. Non, c'est un petit clin d'œil que je faisais. Hein. Surtout, hein, ne le faites pas. Hein. Dieu ne nous fait aucunement la promesse d'éviter l'épreuve, mais il nous garantit d'être avec nous dans l'épreuve. Et ça, c'est formidable. Alors, n'allez pas chercher les épreuves pour les épreuves, comme je viens de vous le dire. Parce que là, c'est tenter Dieu et c'est de faire une épreuve qui n'a aucun sens. Hein, de vouloir dire, eh bien, on va voir si ça marche. Alors là, c'est de la folie. C'est exactement ce genre de choses que Jésus était confronté dans le désert pendant les 40 jours avec le diable. Si c'est le Seigneur qui nous le demande, c'est une chose, mais si c'est le diable qui nous le... Méfions-nous. Ou si c'est notre chair. Hein. Méfions-nous. Dans la vie de tout disciple, il y a des matins radieux. Il y a des jours de plein soleil, mais il y a aussi des soirs et des nuits ténébreuses. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Elle était bien au milieu, hein. Les côtes de chaque côté, hein. Deux situations très délicates. Le soir, où toute vie plonge dans une inquiétante obscurité, et naviguer seul, au milieu de l'océan, au milieu de la vie, eh bien, c'est pas facile. Parce que là, on vit l'obscurité, on vit la solitude. Et c'est peut-être les épreuves des uns et des autres. Le repos de notre âme s'évanouit quand autour de nous s'éteint notre belle assurance de la vie. Lorsqu'un voile assombrit ce que nous croyons être à nous, et que finalement nous apercevons que même la vie, c'est un prêt que Dieu nous a donné, et qu'elle ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient au Seigneur. Il en fait ce qu'il veut. Et dans sa grâce, il la prolonge, il l'entretient, il la bénit. Ce que nous croyons être à nous. La nuit descend doucement, elle descend silencieuse. Ce sont les mauvais jours dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Alors à ce moment-là, on ne comprend plus ce qui nous arrive. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de comprendre. Il nous a toujours demandé de croire et que nous comprendrions après, mais pas avant. La nuit est synonyme de repos. Normalement, on se couche pour se reposer. Mais la nuit morale et spirituelle a pour signification, malheureusement, pour beaucoup d'hommes, parfois pour des chrétiens, prend pour signification l'agitation, les tourments, les insomnies et quelquefois la peur, parce qu'il fait noir. Il fait noir. Être au milieu de la nuit, c'est-à-dire n'avoir aucune possibilité humaine à laquelle se raccrocher, parce que tout est noir. Certaines épreuves permises par Dieu nous poussent très loin, au-delà de tous les rivages, au-delà de tout rivage. Reste l'unique secours, si nous ne pouvons pas regarder à l'horizontale, il n'y a qu'une chose que nous pouvons faire, c'est regarder à la verticale. Et au-dessus de nous, il y a le Seigneur. Jésus veille, je l'ai dit, Jésus prie, le verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Est-ce que c'est seulement contraire ou c'est véritablement quelquefois un véritable défi, une adversité que nous traversons? Quelquefois c'est plus que cela. Dans Marc au chapitre 4 et au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Dans Matthieu chapitre 14, les mêmes textes, hein, mais dit différemment, la barque était battue par les flots. Dans Matthieu chapitre 8, verset 24, il nous est simplement, voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Dans Luc chapitre 8, verset 23, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait et ils étaient en péril. Il n'y a pas de hasard aveugle. Le Seigneur les voyait et il priait pour eux. Le Seigneur vous voit et il intercède. Aussi dure, aussi longue que soit l'épreuve, l'acharnement des hommes contre nous, le souffle infernal du diable contre l'enfant de Dieu, chaque vague, chaque coup de vent cinglant obéit et demeure sous le contrôle du Dieu souverain. Lui ne perd jamais le contrôle, moi, oui, mais lui ne perd jamais le pilotage. Toute chose voulue par Dieu l'est dans un but de miséricorde et non destinée à nous amener sur des récifs rocailleux de désespoir, mais sert à nous rapprocher un peu plus de lui et nous rapprocher du ciel. C'est ça le but. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Eh bien, si vous croyez que Dieu vous aime, il ne va pas vous faire du mal. C'est logique. C'est logique. Furieuse est la tempête et malade est le naufragé. Parce que, je ne sais pas si vous avez les pieds marins. Vous savez ce que c'est d'avoir le vertige? D'avoir mal au cœur? D'avoir le tournis? C'est terrible. C'est affreux, hein? Dans le psaume 107, je vais terminer. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il dit, comprenez, hein? Il montait vers les cieux, il descendait vers l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. C'est là où l'homme n'est rien du tout et il ne peut plus rien. Et c'est bien qu'il ne puisse plus rien parce que c'est quand il ne peut plus rien que Dieu peut tout. Pas trop difficile, hein, à comprendre. Mais c'est difficile à vivre, hein, parce que pour lâcher les rênes, pour tenir le bastingage, le Seigneur a du mal à nous faire décrocher, hein. La conclusion. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il y a une expression moderne aujourd'hui. Quand on parle de quelqu'un qui a des difficultés, on dit « il rame ». On parle de galère également. Enfin, il y a toutes sortes d'expressions comme ça, gentilles. Hein. Mais ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Ouais, beaucoup de peine, beaucoup de mal, beaucoup de peine à ramer. Est-ce que Dieu serait indifférent? Les larmes, nos larmes, nos nausées, l'épuisement, Jésus voit. Est-ce qu'il oublierait la peine de ceux qu'il a appelés au salut? Écoutez bien cette parole du prophète Ésaïe. Quand il est dit ceci, le Seigneur m'oublie. Enfin, c'est Israël qui dit ça, le Seigneur m'oublie. Et la réponse, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit Dieu, je ne l'oublierai pas. Alors le Seigneur n'est pas prêt de nous oublier. Il n'est pas prêt de nous oublier. La Bible nous enseigne, et particulièrement à travers le livre de Job, que le diable doit obtenir la permission de Dieu avant d'attaquer ceux qui appartiennent au Seigneur. Ouais, ouais. Le livre de Job. Vous connaissez? Chapitre 1er, chapitre 2. Moi, j'en ai tiré la conclusion, ce n'est pas une doctrine. Hein, mais qu'il doit obtenir la permission de Dieu avant de nous attaquer. Et si Dieu le permet, c'est qu'il a déjà en vue non pas notre défaite, mais notre victoire. Autrement, il ne permettrait pas. C'est ce qui s'est passé pour Job. Le Seigneur ne permet pas que nous nous engagions dans une bataille impossible à gagner. Elle est toujours possible à gagner, mais avec lui, dans la foi et dans le repos de la foi. Dieu sait choisir les hommes qu'il peut envoyer dans des situations difficiles, lesquels, par leur foi, s'en sortiront. Eh bien, si Dieu conduit telle ou telle circonstance de votre vie, c'est qu'il sait que vous allez vous en sortir. Autrement, il n'aurait pas fait. Ouais, c'est comme ça. Nous avons été amenés à vivre certaines choses que nous n'aurions jamais pu penser qu'elles nous arriveraient. Et nous les avons vécues en tremblant, en pleurant, en priant, en suppliant le Seigneur. Mais nous les avons vécues, nous les avons passées, parce que aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais si le Seigneur l'a permis, c'est que nous pouvions le vivre. Tout simplement. C'est comme ça. Le regard de Dieu est un regard de compassion et d'amour sur chacun de ses disciples dans le désarroi. Ne promène pas des regards inquiets autour de toi. Connaissez Ésaïe, chapitre 41 ? Ne regarde pas. Il n'y a pas de crainte. Ce savoir aimé de Dieu ramène la paix et le repos du cœur. Ce repos se trouve dans l'amour. Comme Jean nous le dit dans son épître, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors demandez donc à Dieu qu'il augmente son amour, votre amour pour lui, et vous verrez que la foi, à ce moment-là, et la confiance, eh bien, elle deviendra tout simplement naturelle. Le repos de la foi trouve son aboutissement, son couronnement dans le repos de l'amour. Je vous ai parlé du repos de la foi, repos de l'amour, dans l'amour. Je me repose dans ton amour. Je crois qu'il y a un cantique qui nous dit ça. Oui, je me repose dans son amour. La fois prochaine, nous donnerons une suite à notre message. Comment notre repos de la foi peut-être troublé par nos pensées intérieures? Et comment Jésus rétablit le repos dans les cœurs et la paix intérieure? Et nous aurons à aborder, après la tempête, le grand calme. Que Dieu nous bénisse sur le même thème, le même chapitre, le même texte de Marc. Que Dieu nous bénisse maintenant. Nous allons simplement demander à Henri de bien vouloir prier pour chacun d'entre nous, pour que nous fassions des progrès dans le repos de la foi.